RCF.
Le doigt accusateur d'une meute haineuse, une femme apeurée et écrasée, un homme qui s'abaisse avec pudeur et qui va faire surgir la liberté. Nous avons dans l'évangile de ce dimanche les acteurs d'une des plus belles scènes de la vie de Jésus. Cette scène a été nommée le récit de la femme adultère, mais l'on pourrait plutôt parler de l'histoire de la femme libérée, pardonnée et déliée. Pour regarder avec nous ce passage d'évangile, je reçois Anne Lécu, elle est religieuse dominicaine, médecin en milieu carcéral. Nous commençons par écouter le texte, c'est dans Jean, chapitre 8, versets 1 à 11.
Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ?» Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient, un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. »
Anne Lécu, il faut resituer la scène de cet évangile. Jésus est à Jérusalem dans un contexte de tension.
Ça se passe assez mal pour lui, là, parce que l'évangile de Jean met vraiment en scène Jésus dans un procès qui va crescendo, avec des accusateurs, des défenseurs, et vraiment un tribunal qui va le juger, le condamner à mort. Et donc là, à partir du chapitre 8, 9, 10, la situation se tend considérablement, et donc les religieux du pays lui tendent des pièges.
Et qu'est-ce qu'on lui reproche au juste?
On lui reproche sans doute d'être libre. Et donc ça ne s'appelait pas beaucoup à des gens qui respectent la loi de façon scrupuleuse et qui finalement ont oublié l'esprit même de la loi qui était libérer l'homme. Donc ils sont dans une espèce d'enfermement de la loi qui va prescrire des choses et donc finalement contraindre l'homme à toujours découvrir qu'il est pécheur parce que la loi on ne peut jamais l'appliquer à 100%. Et du coup, Jésus vient dégager ça, cette gang-là, et dire que ce qui compte, c'est l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est la liberté de l'homme.
Alors le texte ouvre avec une précision importante, puisque Jean nous dit que Jésus a passé la nuit à prier au mont des Oliviers, et dès l'aurore, il retourne au temple.
Alors déjà, on a deux lieux qui sont très importants, parce que le mont des Oliviers, ce sera là où il sera crucifié, et le temple, c'est le lieu du pouvoir religieux. Donc on a une sorte de remake, à la limite, à l'avance, de la passion de Jésus, finalement, presque là-dedans, dans ce va-et-vient entre le mont des Oliviers et le temple.
Et le peuple vient à lui. On ne nous dit pas que c'est les autorités religieuses, mais c'est le peuple, c'est la foule.
Tout à fait.
Pour l'écouter, alors lui, il s'assoit et se met à enseigner. Il s'assoit.
Alors ça, c'est une position aussi qui ne doit pas du tout leur plaire, parce qu'il se met vraiment en position d'enseignant, de rabbi. Celui qui s'assoit, c'est celui qu'on écoute. Et du coup, sans doute que les scribes et les pharisiens qui sont là, ça leur plaît moyennement.
Une posture d'humilité aussi.
Là, en l'occurrence, je pense que s'asseoir, c'est vraiment la position de celui qui enseigne, du rabbi.
Alors, Jésus enseigne. Visiblement, la parole de Jésus est percutante, car on nous dit que tout le peuple vient à lui. Donc, il a vraiment une aura.
Oui, tout à fait.
Il est très écouté.
Il parle avec autorité, sans doute.
Nous regardons donc avec vous cet évangile. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu
et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Seule la femme est là.
Alors du coup, c'est intéressant parce que c'est un truc très, très visuel aussi, ce texte. Hein. Et la femme va être au milieu. Et si on reprend l'évangile de Jean dans son origine, au premier chapitre de l'évangile de Jean, l'incarnation de Jésus, dans ce qu'on appelle le prologue de l'évangile de Jean, c'est Jésus qui vient au milieu des gens. Donc, au milieu, c'est la place de Jésus. Et donc, la femme, on vient la mettre à côté de Jésus, au milieu, à la place de Jésus. Voilà. À chaque fois qu'il y a au milieu, c'est avec Jésus. Bon. Donc, elle est seule avec lui. Donc, elle est en toute sécurité, elle est de son côté à lui, et avec lui, au milieu.
Alors, vous dites qu'elle est en pleine sécurité, mais elle est au milieu comme un objet, quand même. Alors, autour de
non, mais ce cette que nous foule. Dit le texte, au milieu, vraiment, elle va rester au milieu du début à la fin, et on va réentendre ce milieu après.
C'est,
vraiment la place de Jésus d'être au milieu de nous. Enfin, c'est vraiment le Verbe est venu parmi nous. Parmi nous, c'est au milieu de nous. C'est pas seulement entre nous, c'est aussi au milieu de chacun d'entre nous. Il est le cœur de nos vies à chacun. Il est le cœur de nos relations et le cœur de nos vies. Et cette femme, on la met justement là, paf, au cœur du truc. Donc ça, c'est très important.
En tout cas, elle est toute seule, alors que l'adultère se vit à deux.
Alors, elle est toute seule, mais c'est pas le sujet de l'évangile. À mon sens, c'est pas le sujet. Elle est toute seule et on va nous expliciter très clairement que c'est un piège, en fait. Et que les scribes et les pharisiens qui l'ont amenée, ils tendent un piège à Jésus. Parce que soit il va la lapider en appliquant la loi de Moïse, mais ça va être absolument contraire à tout ce qu'il professe depuis le début de miséricorde et de libération. Soit il ne la lapide pas et du coup il se met en position d'être... de ne pas appliquer la loi. Et du coup, il est discrédité.
Donc, il est piégé dans les deux
il
sens.
Il est complètement piégé. Et vraiment, cet évangile nous raconte... En fait, c'est un prétexte. Donc oui, elle est posée comme un objet. Elle est une sorte de prétexte pour tendre un piège à Jésus.
Et alors, ces hommes sont hypocrites. Maître. Il y a une hypocrisie quand même à l'appeler maître.
Ah ben complètement, oui. Non, mais là, il se fiche de lui. Oui, clairement.
Donc c'est un piège tendu sciemment.
C'est un piège à Jésus. Et alors, Jésus va faire une chose extrêmement intéressante. Alors là, il faut avoir fait un peu de grec. Alors, pardonnez-moi pour les auditeurs, je vais essayer de faire un peu savante, mais je ne veux pas faire ça, mais quand même, c'est important. Jésus se baisse et il écrit sur la terre. Et plus tard, on va nous dire qu'il se baisse à nouveau et qu'il écrit à nouveau sur la terre. Quand on a traduit le mot grec pour dire qu'il écrit, c'est pas le même pour la première fois où il écrit sur la terre et la deuxième fois où il écrit sur la terre. Et quand on prend la première alliance, au moment où Moïse descend du mont Sinaï, où il a reçu les tables de la loi, en fait, vous savez que Moïse monte une première fois au Sinaï, Dieu lui donne les tables de la loi que Dieu a écrit lui-même. Il redescend, et là, les Hébreux ont complètement oublié Moïse, ils ont fabriqué un veau d'or, et donc ils sont en train de tourner en boucle autour de leur idole. Du coup, Moïse, de colère, casse les tables de la loi. Finalement, il va intercéder pour son peuple, remonter sur la montagne et écrire une deuxième fois sur les tables de la loi. Eh bien, le mot « écrire », quand c'est Dieu qui écrit la première fois, et qu'on traduit en grec la Bible, l'Ancien Testament, c'est le premier mot qu'on retrouve là. Et le mot où les tables de la loi ont été écrites par Moïse lui-même, c'est le deuxième mot. Ça veut dire que ce texte, pour quelqu'un qui est lettré et qui a fait du grec à l'époque de Jésus, ça renvoie directement au commandement de Moïse.
Il faut rappeler que l'évangile de Jean, en plus, c'est un texte plein de métaphores, de symboles, de références à la première alliance.
Tout à fait. Donc là, vraiment,
un texte construit.
C'est un texte très construit, qui a une intention théologique. Donc là, très clairement, le lecteur de l'époque, un peu érudit, il sait que ça nous parle de la loi de Moïse. Ce dont il est question, c'est la loi de Moïse, qui est une loi qui est donnée après la libération du peuple, pour servir la libération du peuple. Donc ce dont il est question, c'est vraiment la question de la libération. Et c'est bien la libération de la femme dont on va parler.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Anne Lécu, vous évoquiez justement la loi. Ça tombe bien parce que les hommes qui viennent vers Jésus disent la loi qu'on nous a transmise dit qu'il faut lapider cette femme. Alors c'est, je crois, dans le livre du Lévitique, je cite, « Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort, l'homme adultère aussi bien que la femme adultère. » Donc là, l'homme
là,
n'est pas
là. Là, il en manque un. Tout à fait.
La femme est là seule. Donc, la question est piégée, nous l'avons déjà dit, puisque Jésus est pris au piège dans les, quelle que soit sa réponse. Et alors, Jésus s'abaisse, effectivement. Alors, il était déjà assis.
Donc, il est déjà assis.
Et il s'abaisse.
Il se penche, il écrit sur la terre quelque chose, sur le sable.
Donc, il doit être très bas, parce que s'il était
il doit être assis par terre. Je pense que depuis le début, il est assis par terre, je suppose. Mais ça, c'est la position du maître qui va enseigner à ses disciples. Et puis, il se baisse à nouveau pour écrire. Et alors, surtout, il va dire, entre les deux écritures sur le sol, là, un truc incroyable. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et là, on va nous dire qu'après avoir entendu cela, ils s'en vont un à un, en commençant par les plus âgés. Mais il ne leur a pas dit de partir. Il leur a simplement dit que s'il y en a qui sont sans péché, ils peuvent la lapider.
Et ben du coup, d'ailleurs, il dit « j'observe la loi ».
Ah mais clairement.
Il ne va pas contre la loi. Là.
Il ne va pas du tout contre la loi, donc il est extrêmement rusé.
Donc il leur dit « allez-y ».
Il contourne le piège, mais surtout, il ne leur dit pas de partir et eux s'en vont. Autrement dit, eux se jugent eux-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? C'est que la femme, elle va rester seule avec Jésus, toujours au milieu. C'est pour ça que je disais que c'était un lieu sans danger d'être au milieu avec Jésus, parce que du tout, c'est là qu'il est, en fait. Et il va se redresser et lui parler. Et vraiment, c'est la première fois qu'il lui parle. Il s'adresse à elle en lui disant « Où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné. » Et elle répond « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Eh bien, il me semble que si les scribes et les pharisiens ne s'étaient pas jugés eux-mêmes, et s'ils étaient restés là, ils auraient aussi entendu pour eux-mêmes « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Mais ils se sont jugés eux-mêmes et du coup, ils se mettent en dehors de la possibilité d'être délivrés par la parole de Jésus. Donc, je pense que ce texte nous raconte certes la délivrance de la femme, mais ça nous raconte surtout la non-délivrance des scribes et des pharisiens qui se jugent eux-mêmes indignes et qui s'en vont plutôt que de rester indignes devant Jésus. Il me semble qu'un des enseignements incroyables de ce texte, c'est que nous n'avons rien à craindre si nous restons, y compris pécheurs, au milieu avec lui, alors que si nous partons parce que nous nous jugeons indignes de lui, eh bien du coup, il ne peut rien faire pour nous.
Anne Licu, nous regardons avec vous cette scène poignante de la femme adultère dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Vous en avez déjà dit beaucoup. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les détails. Le silence de Jésus, il y a une densité là. Et puis une pudeur sûrement. On imagine qu'il regarde le sol, c'est-à-dire qu'il ne veut pas frontalement ni regarder la femme en direct, mais les autres aussi.
Il n'accuse personne. Dans ce texte, il est vraiment comme... Jésus jamais n'accuse quiconque. On peut prendre tous les évangiles, jamais il n'accuse quiconque. Et donc là, il n'accuse personne, ni la femme, ni les scribes et pharisiens qui sont là. Et justement, le fait de ne pas les regarder, il se redresse quand même et leur dit... Oui, quand il les regarde, je pense, quand il leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Mais il les regarde eux, mais pas elles.
Et après, il les laisse avec leur conscience.
Exactement.
Donc il y a toute une pédagogie de Jésus là qui laisse faire le cœur de l'homme.
Ben, je ne sais pas si c'est une pédagogie. J'aime pas trop le mot parce que c'est pour les enfants, la pédagogie. Non, je pense qu'il les laisse avec cette... Il les laisse libres de faire ce qu'ils souhaitent. En tout cas, c'est pas lui qui la lapidera.
Alors, ils s'en vont un à un, en commençant par les plus âgés. Il y a une pointe d'humour, là, chez Jean.
Oui, comme si parce qu'on est plus vieux, on a peut-être plus péché, peut-être. Ou alors on est plus sage, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si c'est de la sagesse de partir. Parce qu'il y a un autre passage de l'évangile de Jean qui est un peu compliqué, au chapitre 3, où il nous dit « Qui croit en lui est sauvé, qui ne croit pas n'est pas sauvé. Je pense que c'est ça qui illustre cette parole de l'évangile de Jean qui est un peu compliquée. C'est-à-dire ne pas croire, c'est se priver soi-même du salut si on se juge soi-même. Et c'est vraiment un texte qui parle de miséricorde au sens où, oui, encore une fois, y compris si on n'est pas à la hauteur de l'évangile, on ne l'est jamais, ce qui nous sauve, c'est de rester au milieu avec Jésus.
Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
Anne Lécu, revenons avec vous sur la finale de l'évangile. La femme est donc avec Jésus. Ils sont seuls à seuls. Jésus dit à la femme, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné. » Mode interrogatif. Pourquoi il utilise une question avec elle ?
Je pense qu'il lui donne la parole d'une certaine manière. Maintenant qu'il n'y a plus personne, il lui donne la parole.
Mode interrogatif.
Mais je pense qu'il est même sur... Enfin, peut-être même qu'il est... On peut aller jusqu'au bout du texte, hein, qu'il est peut-être même surpris de constater qu'il n'y a plus personne qui est resté.
Il est surpris avec
peut-être
elle.
Peut-être, il est surpris avec elle.
Personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Qu'est-ce que vous diriez sur cet envoi ? Le ne pêche plus...
Je pense que la question du péché... ne peut être regardé en face qu'après avoir regardé en face la miséricorde. On ne peut pas parler du péché si on n'a pas d'abord annoncé la miséricorde du Christ et la puissance de sa miséricorde. Donc parler du péché si on ne sait pas ce que c'est que la miséricorde, ça sert strictement à rien. On va pas savoir ce que c'est. Et puis il faut aussi redire qu'il n'y a de péché en foi chrétienne que pour celui qui a la foi. Il n'y a pas de péché pour celui qui ne croit pas. Il peut y avoir de la faute, mais pas de péché. Donc la question, est-ce que sommes-nous suffisamment évangélisés ? Donc avons-nous suffisamment reçu la puissance de l'évangile et la miséricorde qu'il annonce pour parler du péché ? Donc une fois qu'elle a compris qu'elle n'était pas condamnée par le Christ, une fois que moi j'ai compris que je n'étais pas condamnée par le Christ, oui, je peux regarder en face mon péché.
Il faut se sentir aimé en premier pour voir la conséquence de nos actes.
Oui, alors on va le décliner de façon très simple dans la vie courante. Vous pouvez reconnaître que vous n'avez pas du tout été à la hauteur avec votre conjoint ou avec vos enfants parce que vous savez qu'ils vous aiment et que vous les aimez. Et donc, à partir de ce fond propre qui est l'amour mutuel, eh ben oui, on peut savoir qu'on n'est pas à la hauteur, quoi. Mais... par exemple, pratiquer la correction fraternelle avec quelqu'un, enfin dire à quelqu'un « écoute, là tu m'as quand même fait de la peine, ou là tu m'as un peu fait du mal », c'est possible uniquement si on est sûr qu'on l'aime, et si l'autre nous aime. Si on n'est pas, s'il n'y a pas de charité entre nous, c'est d'une extrême agressivité de dire à quelqu'un « tu m'as fait du mal ». Donc je pense que la correction fraternelle, elle peut être aussi le lieu de vérification de la charité qu'il peut y avoir entre nous, qui existe ou pas. Ça, moi, je le vois dans la vie commune. Si je ne peux pas dire à une sœur quelque chose qui m'a blessé en elle, c'est que je ne l'aime pas assez. Donc je pense que la charité, enfin l'amour mutuel, pour parler simplement, il est la condition de possibilité de la reconnaissance des fautes qu'on peut avoir les uns envers les autres, en fait. Et ça, c'est de l'expérience la plus basique, hein, la plus ordinaire. Donc je pense que dans la foi, c'est pareil. Donc c'est pas la peine de parler du péché si on n'a pas un jour un peu découvert que le Christ est celui qui dit à chacun d'entre nous « Je ne te condamne pas ». Il n'est pas là pour condamner.
Alors une fois qu'on a dit, qu'on a perçu que l'on n'est pas condamné, que l'on est aimé inconditionnellement, ce serait quoi le péché, justement ?
Alors du coup, le péché, c'est sans doute de ne pas vivre de cette miséricorde reçue. Donc de ne pas la transmettre. C'est une autre parabole, hein, où quelqu'un qui est en dette... vient supplier son maître de lui remettre sa dette, le maître accepte qu'on lui remette la dette, et par contre, lui, après, il va fouetter celui qui est en dette envers lui-même. Bon. Donc je pense que la miséricorde, si on l'a reçue, il faut la transmettre. Je ne peux pas dire à la fois que je suis convaincue que Dieu ne me condamne pas, et condamner tous ceux qui m'entourent par mes paroles et par ma manière d'être. Là, ce sera du péché. Je pense que le péché, c'est l'accusation. Le péché, c'est le piège que tendent les scribes et les pharisiens à Jésus en mettant cette femme au milieu et en l'accusant. Parce que l'accusateur, en hébreu, ça se dit le Satan. Voilà. Et donc je pense que le péché par excellence, c'est ça. C'est pas forcément faire un acte mauvais, mais c'est dire « lui a fait un acte mauvais, il faut qu'on le punisse ». C'est cette espèce de regard centré sur un autre qui est jeté à la, en pâture aux autres.
Anne Lécu, nous avons lu avec vous ce texte d'Évangile. Comment ne pas juger de l'extérieur quelqu'un, un acte ou une personne? Le pire, c'est une personne. Et y a-t-il une manière d'éviter cela en christianisme?
Ben, je pense qu'à chacun de voir comment il peut faire dans sa propre existence. Hein. Moi, je juge en permanence des gens de façon trop rapide. Donc, le fait d'en être conscient, peut-être que c'est déjà un début pour essayer de faire attention. Et puis, je pense qu'il faut se souvenir, pour le coup, que le Christ ne nous condamne pas et que, du coup, qui sommes-nous pour condamner les autres, quoi.
Lui, il dit « je ne juge personne hein. ».
Je ne juge personne, et bien quand même, je ne te condamne pas, c'est encore plus fort.
Mais donc, lui ne nous condamne pas.
Non, et le jugement, il dit que le jugement est le jugement du Père. C'est pas le sien, en fait. Je pense qu'il faut faire attention à la question du jugement entre le bien et le mal, tout ça, parce qu'assez vite, surtout nous catholiques, on a tendance à savoir à l'avance ce qui est bien et ce qui est mal. Et Jésus nous dit toujours dans l'Évangile que ça, attention, il se pourrait que ce soit un faux savoir. Et pour autant, l'éthique, ça va pas être juger du bien et du mal, ça va être aimer l'autre ou pas. C'est un peu différent. Est-ce que ma manière de vivre et d'aimer favorise la vie de l'autre ou pas? Est-ce que ça l'aide à vivre ou est-ce que ça l'enferme dans la mort? Et du coup, il me semble que l'éthique, c'est comment nous remercions l'autre d'exister. C'est plutôt un terme de remerciement pour un amour qui est déjà là avant nous. C'est pas d'abord sortir des grosses catégories de bien et de mal.
Va, je ne te condamne pas. Donc c'est une parole à entendre pour tous.
Et oui, moi je suis sûre que je ne te condamne pas, c'est pour chacun d'entre nous. Et si j'entends « je ne te condamne pas », je peux essayer d'être envoyé. En même temps, je trouve que ce qui est très beau, parce que quand même la parole de Jésus, elle est toujours efficace, quand il me dit, ou quand il dit à cette femme, ou quand il nous dit « ne pêche plus », il nous donne la force de ne pas pécher. C'est-à-dire qu'au moment où il le dit, il nous permet que ce soit possible. Alors, c'est pas tout le temps possible, hein, pour tout le reste sans des jours, mais il nous donne la possibilité de ne plus pécher.
Et comment?
Par la seule force de sa parole. C'est-à-dire, s'il me dit « ne pêche plus », je peux croire que je peux ne pas pécher. Donc, je peux croire que demain, si aujourd'hui j'étais pénible avec mes camarades ou mes collègues, je peux croire que demain, je peux ne pas être pénible. Et le fait d'y croire, ça va m'aider à ne pas l'être.
Et Dieu sait si on peut remettre le travail.
Et on peut recommencer chaque jour.
Chaque jour, ouais. Parce que c'est compliqué. Donc, il y a c'est une parole d'espérance aussi, une sortie. On ne sait pas ce que va devenir cette femme, mais il y a toute une ouverture au sortir de ce texte, finalement.
Oui, et puis il lui parle comme un sujet, alors qu'au début, personne ne lui adressait la parole, quand même. Et donc, en fait, oui. Et à la limite, peu importe si elle pêche ou pas demain. Ce n'est pas si grave, ce n'est pas la question. La question, c'est que elle aura au moins entendu une fois quelqu'un qui lui dit « je ne te condamne pas ».
Alors, on ne sait pas ce que deviennent aussi ceux qui sont partis, tous ceux qui la condamnent, mais il y a aussi des chemins qui peuvent s'ouvrir.
Bon, on espère qu'ils vont un jour entendre le « je ne te condamne pas » pour eux-mêmes.
Ce que vous disiez, c'est qu'ils auraient pu rester et l'entendre pour eux.
Ouais.
Donc, rester.
Ah ben, moi, je suis convaincue que quand on est... la seule solution, c'est d'être au pied du Christ avec ce qu'on est, et donc avec ses péchés et les choses qui vont pas et les choses qui vont bien, et lui dire « écoute, tu prends tout, tu te débrouilles avec tout ça, moi ça c'est ma vie, voilà, donc tu prends tout ».
Merci à vous, Anne Lécu. Pour ceux qui veulent lire cet évangile, c'est dans Jean, chapitre 8, versets 1 à 11.
Avec plaisir.